Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour, le 31 mai 1740, Frédéric Guillaume Ier, roi de Prusse, rend son âme à Dieu. Son fils, Frédéric, lui succède pour un règne quasiment d'un demi-siècle, très exactement 46 ans. En dépit des doutes du père exprimés tout au long de l'éducation du fils, Frédéric, deuxième du nom, s'affirme comme une des plus grandes figures du XVIIIe siècle, aux côtés de Catherine II de Russie et de Marie-Thérèse d'Autriche. Roi philosophe par les liens qu'il entretint avec Voltaire, roi capitaine par ses exploits militaires, roi enfin absolu par sa conception même du pouvoir, Frédéric reste assez méconnu, d'autant plus qu'il fut associé, en tous les cas son image fut associée peut-être à tort, aux événements qui jalonnèrent l'histoire allemande des 19e et 20e siècles, Iéna en 1806, 1871 l'unité allemande et même l'émergence du nazisme. Alors, qui fut réellement Frédéric, Frédéricus Magnus ? Eh bien, c'est ce que je vous propose de découvrir avec Jean-Paul Blette. Jean-Paul Blette, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, professeur à l'Université Paris IV, Sorbonne, où vous êtes titulaire de la chaire d'histoire de l'Allemagne contemporaine et du monde germanique. Vous êtes intervenu l'année passée à l'Académie des sciences morales et politiques pour évoquer un autre grand personnage de l'Allemagne, Otto von Bismarck, une intervention disponible sur le site internet de l'Académie asmp.fr. Et vous venez de publier, Jean-Paul Blette, aux éditions Fayard, une biographie de Frédéric de Prusse. Ce qu'il y a d'intéressant, ce sera ma première question, c'est que vous avez écrit chez le même éditeur une biographie de Marie-Thérèse d'Autriche, et il existe un lien naturellement entre Frédéric de Prusse et Marie-Thérèse d'Autriche. Alors êtes-vous arrivé à Frédéric en côtoyant Marie-Thérèse ?
Bien, vous avez mis le doigt sur la piste, n'est-ce pas ? C'est vrai que en écrivant cette biographie de Marie-Thérèse, je ne pouvais pas ne pas rencontrer Frédéric II, Frédéric le Grand, qui fut son adversaire de tout le règne. Et donc, par un glissement naturel, d'une certaine manière, j'en suis venu à cette idée, à ce projet d'une biographie de Frédéric II. J'ajouterais que le défi était d'autant plus intéressant que pour moi, la Prusse était un monde assez nouveau, intéressant, fascinant, mais jusqu'à présent, c'est vrai, j'ai travaillé sur l'Autriche, les états de la maison d'Autriche, et donc j'ai aussi souhaité, d'une certaine manière, relever un défi.
Est-ce qu'il y a une, j'allais dire, dans votre démarche d'historien, bon, vous avez travaillé sur Marie-Thérèse, est-ce que vous vouliez voir, j'allais dire, l'autre partie, l'autre côté, avoir l'avis de l'ennemi ?
Oui, bien sûr, bien sûr. Parce qu'une réalité historique est à deux faces, bien sûr. Chacun entre dans cette histoire avec des arrière-pensées, avec des objectifs qui sont, bien sûr, différents. Oui, il s'agissait un peu de les mettre face à face.
Est-ce que votre opinion, après avoir écrit Frédéric le Grand, est-ce que votre opinion sur Marie-Thérèse a évolué ?
Oh, guère, je reste très admiratif devant cette femme d'énergie. C'est comme cela que je l'ai vue, essentiellement. Et donc, d'une certaine manière, c'est aussi la vie de Frédéric II, qui au départ la considère avec beaucoup de mépris, le mépris du misogyne qu'il est. Et puis, cette jeune femme de 23 ans qui n'a eu aucune éducation politique, il pense qu'il ne va en faire qu'une bouchée. Et puis, il se trouve que, certes, il marquera des points, il remportera des victoires, mais enfin, il aura en face de lui un adversaire à sa mesure. Et c'est tellement vrai qu'après ce mépris qu'il a eu au début, il s'est pris d'admiration pour elle, jusqu'à, ce qui est tout de même singulier, jusqu'à placer un portrait d'elle dans son bureau.
Venons-en donc à notre sujet, Frédéric. Frédéric, on l'a dit, est un des personnages qui domine le XVIIIe siècle, mais on se doit quelque peu d'évoquer naturellement son père, Frédéric Guillaume, et surtout les rapports que ce dernier entretint avec son fils. On ne peut pas dire que ce furent des rapports idylliques.
Non, ce ne furent pas des rapports idylliques, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce furent des rapports violents, conflictuels. Alors, sans évidemment raconter l'histoire dans le menu de ces rapports et de ce conflit, c'est sûr qu'il y avait deux tempéraments différents, même si à l'arrivée, on verra que Frédéric II, souverain, s'inscrira dans la continuité, d'une certaine manière, de son père. Mais il n'empêche qu'il y avait deux tempéraments différents, parce que le jeune Frédéric est ouvert vers la culture, vers les arts, vers la France. C'est tout le contraire du roi, qui connaît tous ces penchants de son fils et qui le trouve efféminé, qui n'a que mépris pour ces tendances de son fils, qui s'intéresse déjà à la littérature, à la musique, qui commence à jouer de la flûte. Et tout ça ne participe pas de son monde à lui, qui est un monde de soldats un peu rustres, il faut le dire, n'est-ce pas ? D'ailleurs, c'est son univers au père. C'est bâtir une armée, ce qui était important. Mais on connaît sa passion pour les grenadiers d'un mètre 80. C'est toute sa vie. Pour Frédéric, l'armée sera très importante, évidemment, mais il ne se laissera pas absorber par cette armée et il aura tous ces goûts culturels qui l'accompagneront tout au long de sa vie. Donc son père a remarqué tout cela et bien il veut le mater. Il veut le mater parce qu'il veut que ce fils soit à son image. Donc pour ça, il faut le mater. Eh bien, ça ne fonctionne pas. Frédéric supporte de moins en moins ce qu'on pourrait appeler, pour reprendre un terme prussien, le drill, n'est-ce pas, auquel il est soumis. Donc toute cette série de contraintes. Et puis, il est humilié. Son père le bat, lui donne des gifles, des coups devant des subordonnés. Donc il est véritablement humilié.
C'est ce qui ressort vraiment de votre livre, c'est que la vie d'un prince, d'un jeune prince, et l'éducation d'un prince, c'est un rien d'un monde de privilèges. Et ce n'est pas du tout...
Pour celui-là, sûrement. Voilà. Pour celui-là, sûrement. Pour d'autres, c'est peut-être différent. Ce fut peut-être différent, mais... Pour celui-ci, c'est certain. Ça a été une vie extrêmement dure. Alors, tellement dure qu'il lui vient le projet de s'enfuir. Bon, projet qu'il n'arrive pas à mettre à exécution, mais qui est découvert. Et il va être soumis au jeu des questions. Je ne dis pas de la question, mais des questions, des interrogatoires. Et puis, il va être incarcéré dans une forteresse, la forteresse de Custrine. Et puis, épreuve certainement la plus terrible pour lui, il avait des complices, n'est-ce pas ? Des amis qui s'étaient engagés à ses côtés. L'un réussit à s'enfuir en Angleterre, mais il y en a un autre qui est pris à Berlin, qui est le lieutenant von Katte. Et le roi sergent, donc le père de Frédéric, va trancher et décider qu'il sera exécuté. Et ce n'est pas tout. Il le fait exécuter sous les yeux
de son fils.
De son fils, n'est-ce pas ? Donc c'est évidemment extrêmement cruel, extrêmement dur. Et c'est vrai que par la suite, Frédéric ne reviendra guère sur ces moments. Mais il est évident que ces moments l'ont profondément marqué, c'est une évidence. En même temps, il a appris à travers cette épreuve qu'il fallait aussi composer, qu'il fallait se faire un visage. Il a appris la ruse, ce qui n'était pas au départ nécessairement dans son caractère. Mais ça a été sa manière de tirer les enseignements de ce moment terrible, de ces moments terribles.
Alors il va y avoir naturellement une évolution avec son père, et puis vous racontez peu avant sa mort cette rencontre entre les deux hommes qui se tombent littéralement dans
les
bras.
C'est ça. Il est certain que au fil du temps, les sentiments ont évolué. D'abord parce que le père, tout en gardant une certaine méfiance, il s'est tout de même rendu compte que il y avait tout de même beaucoup de lui dans ce fils, qu'il serait finalement un bon monarque. Et il a une certaine prescience, puisque dans les derniers temps du règne, les relations se dégradent avec Vienne. Et il dit « celui-là saura me venger ». C'est donc bien qu'il a mesuré la force qu'il y avait, les capacités qu'il y avait chez ce jeune prince qui allait lui succéder. Et puis, chez Frédéric, il y a un mouvement qui est un peu de même nature. Au fil du temps, il se rend compte que son père a réalisé une œuvre considérable, qu'il a forgé l'instrument dont il pourra se servir, le double instrument, c'est-à-dire l'armée, bien sûr, dont on parlait tout à l'heure, une armée de 80 000 hommes. C'est énorme, si l'on sait que la Prusse compte 2 millions d'habitants. Et dans le même temps, l'Autriche, ou les États de la Maison d'Autriche, compte 14 millions d'habitants et atteignent une armée de 100 000 hommes. Bon. Et puis un État, une administration. Donc, il a forgé un instrument dont Frédéric va pouvoir servir. Tout cela, il s'en rend compte. Et ça se termine effectivement par la scène que vous rappeliez.
Qui est une scène très émouvante.
Oui, qui a une certaine grandeur, je trouve.
Alors, c'est aussi avant son arrivée au pouvoir que Frédéric pense en politique, en philosophe. Est-ce que cette pensée, cette réflexion du fils touche le père ?
Il n'est pas certain qu'il sache beaucoup et tout sûrement pas, ni même beaucoup de ce que pense et de ce qu'écrit Frédéric. Par exemple, il doit être averti qu'il commence à entretenir une relation avec Voltaire, mais il n'en connaît pas le détail. Mmh. Et d'ailleurs, Frédéric, de ce point de vue-là, aussi longtemps qu'il ne sera pas monté sur le trône, ne plastronne pas, n'en fait pas des gorges chaudes, parce qu'il connaît les possibilités de réaction aussi de son père, n'est-ce pas ? Mais alors, ceci étant, c'est vrai qu'il pense, il a une réflexion, et ceci notamment à partir du moment où il s'établit à Rheinsberg, c'est-à-dire à partir de 1736. Et il va y rester 4 ans.
Alors, c'est de cette réflexion que Jean-Paul Blaine, nous allons parler après une première pause, si vous le voulez bien.
Bien sûr.
À tout de suite.
La bibliophilie est à l'honneur sur Canal Académie. En compagnie de notre bibliologue Bertrand Gallimard-Flavigny, vous découvrirez des ouvrages et manuscrits rares présentés avec esprit dans l'émission Au fil des pages. Le bibliologue, une rubrique de Canal Académie, à écouter et télécharger sur canalacademy.com.
Un jour dans l'histoire reçoit Jean-Paul Blaine, auteur d'une biographie consacrée à Frédéric le Grand. Frédéric le Grand qui est cette grande personnalité qui domina le XVIIIe siècle. Alors nous avons vu quels étaient les rapports entre le père et le fils et nous tenons à mettre l'accent, Jean-Paul Blaine, sur le penseur politique que fut Frédéric le Grand et aussi le roi philosophe parce qu'il est lié, en tous les cas nous Français, nous voyons le lien existant entre Voltaire et Frédéric. Quels furent ces liens entre ces deux grands personnages ?
Eh bien, cela a commencé précisément à Rheinsberg en 1736. C'est Frédéric qui prend l'initiative, qui écrit la première lettre à Voltaire. Frédéric éprouve un sentiment de grande admiration pour Voltaire, une admiration qui, d'ailleurs, l'accompagnera tout au long de sa vie. Les relations vont être certainement très perturbées, elles vont connaître des moments de crise, on le sait bien. Mais cela n'affecte en rien l'admiration qu'il porte à l'écrivain, qu'il portera toujours à l'écrivain. À l'homme, c'est différent, mais à l'écrivain, sûrement. Donc, il s'adresse à lui, et bien sûr, Voltaire est flatté que ce jeune homme, dont on sait qu'il sera prochain roi de Prusse, s'adresse à lui. Lui qui se considère en quelque sorte le prince des philosophes, déjà à ce moment-là, et qui va encore être renforcé, ce statut, par la suite. Alors, une correspondance s'engage, correspondance sur laquelle on échange beaucoup d'idées, d'idées philosophiques, n'est-ce pas ? Mais Frédéric a une arrière-pensée. Il écrit, et notamment des poèmes. Il prosodie beaucoup, beaucoup, et il le fera toute sa vie. Son œuvre poétique fait 4 volumes de ses œuvres complètes, donc c'est tout de même important. Bien, il parle très bien français, il écrit bien français.
Est-ce qu'on peut dire qu'il est francophile ?
francophile sur le plan culturel, oui. Sur le plan politique, évidemment, là, il y a des variations parce qu'il sera le roi de Prusse. Et évidemment, ce qui prime, ce sont les intérêts de la Prusse, ce qui est parfaitement légitime. Donc, à partir de là, selon les conjonctures, il sera l'allié de la France ou il sera dans l'autre camp. Mais en ce qui concerne la culture, là, à mon sens, c'est tout à fait indiscutable. Sa référence fondamentale, c'est la culture française. Alors, il y a d'autres références, les cultures anciennes, latines et grecques, bien qu'il ne lise aucune de ces langues, puisque précisément son père l'a interdit, n'est-ce pas ? Donc, il lira les traductions des grands maîtres des littératures anciennes en français, dans les traductions françaises. Donc, de ce point de vue-là, c'est indiscutable, il est francophile.
Et alors, vous le dites dans votre livre, vous racontez d'ailleurs cette anecdote, il ne va qu'une seule fois en France, en fait.
Oui, c'est-à-dire à Strasbourg. À Strasbourg, il est monté sur le trône à ce moment-là et il veut faire une petite escapade pour aller en France, n'est-ce pas ?
Incognito.
Bon, l'incognito sera levé, ce qui fait qu'il rentrera assez vite. Mais voilà, effectivement, par la suite, eh bien, il sera prisonnier, en quelque sorte, de son rôle de roi de Prusse, et ceci ne lui permettra pas de venir en France.
Alors venons-en donc aux penseurs politiques. Peut-on qualifier précisément Frédéric de penseur politique ?
Il y a une pensée politique, c'est certain. Je ne sais pas si on l'étudierait dans les écoles de sciences politiques, ça je n'irai peut-être pas jusque-là. Mais par rapport, disons, aux souverains de l'époque, c'est sûr qu'il accompagne son action, il soutient son action d'une réflexion politique. Et celle-ci se dessine précisément avant qu'il ne monte sur le trône. Alors, il y a deux textes qui sont importants dans cette période. Il y en a un premier où il traite de l'état de l'Europe, nous sommes en 1739, n'est-ce pas ? Donc un an avant qu'il ne monte sur le trône.
Ses considérations sur l'état présent du corps politique de l'Europe.
C'est cela. Et là, on voit très bien se dessiner ce qui va être l'axe de sa pensée et l'axe de son action, c'est-à-dire l'hostilité à la maison d'Autriche. Ça, c'est un élément permanent. C'est le ressort fondamental de son action. Pourquoi ? Bien, tout simplement parce qu'il considère, à tort ou à raison, là je n'entre pas dans le débat, mais il considère que les Habsbourg ont un projet hégémonique dans le Saint-Empire, et il parle dès ce moment-là, et il ne cessera d'employer ce terme, de despotisme. Il les accuse d'avoir des visées despotiques dans le Saint-Empire. Bon, je pense que c'est une vision qui n'est pas très juste, peut-être pour Joseph II, plus tard, qui effectivement nourrira sans doute ce dessein, mais certainement pas le projet de Marie-Thérèse. Et Charles VI, donc le père de Marie-Thérèse, lorsque son règne se termine, eh bien, il se termine plutôt sur un recul de l'influence autrichienne en Europe et en Allemagne. Mais enfin, quoi qu'il en soit, c'est la vision qu'a Frédéric et, je le répète, ça va être le ressort de toute son action. Ce qui, à mon avis, permet de dire que ce roi, bien plus qu'un précurseur d'un nationalisme allemand, s'inscrit dans le système de Westphalie.
De 1648.
Voilà.
Alors, quelle est sa vision de la France dans ses considérations ?
Eh bien, au moment où il écrit cet ouvrage, qui ne sera publié que beaucoup plus tard d'ailleurs, comme la plupart de ses œuvres, il y en a quelques-unes qui seront publiées de son vivant, celles évidemment pour lesquelles il aura donné l'imprimature, ça va de soi, mais la plupart ne seront publiées qu'après sa mort, c'est-à-dire 2 ans après sa mort. Quoi qu'il en soit, au moment où il écrit ce texte, les relations entre Paris et Berlin ne sont pas excellentes. Et pour la raison pour laquelle on trouve une certaine tonalité anti-française dans ce texte. Mais il aurait été écrit 6 mois plus tard, il est probable que le ton aurait été différent. Pourquoi ? Parce qu'entre-temps, Paris et Berlin, ou Versailles et Berlin, ont modifié leurs rapports. Si vous voulez, pour faire court, après la guerre de succession de Pologne, il y a eu un moment de courte tentation de rapprochement entre Versailles et Vienne. Et dans cette hypothèse, la Prusse en aurait souffert. Bon, parce qu'elle avait des ambitions sur certains territoires rhénans. Et cette alliance ou cette entente franco-autrichienne aurait empêché la réalisation de cet objectif. Mmh. Et puis, ce rapprochement franco-autrichien, eh bien, avorte. Et à partir de là, eh bien, Versailles se rapproche de Berlin et s'amorce en quelque sorte, avant même la montée de Frédéric sur le trône. Ce n'est pas encore à proprement parler une alliance, mais enfin, on peut dire que la voie est tracée qui va conduire à l'alliance.
Alors, dans ces considérations, la conclusion des considérations sur l'Europe est un portrait du prince idéal.
Oui.
Et ce thème revient dans le deuxième livre, qui est un livre majeur, qui est l'Anti-Machiavel.
Exactement. Dont il commence la rédaction en début de 1739 et qui va achever peu de temps avant de monter sur le trône, donc ça lui prend à peu près un an. Alors c'est un ouvrage...
Celui-ci sera publié de son vivant.
Tout à fait, tout à fait. Lui, il sera publié de son vivant, pas sous son nom, pas sous son nom. Et d'ailleurs, il confiera à Voltaire la tâche de revoir, de polir, mais Voltaire fera un peu plus que polir, il ajoutera des idées qui lui sont personnelles. Bon, enfin, quoi qu'il en soit, c'est un texte majeur parce que on ne pourra pas manquer, puisqu'il va monter sur le trône quelques mois après l'avoir terminé, et qu'il va se lancer tout de suite dans de grandes entreprises, n'est-ce pas ? On ne pourra pas manquer de comparer ce qu'il disait, le portrait qu'il dressait de ce prince idéal, et ce que lui va réaliser. Force est de reconnaître qu'il y a un certain contraste. Alors effectivement, dans l'Anti-Machiavel, l'ouvrage porte bien son nom, c'est un pamphlet contre la pensée de Machiavel, contre le prince. Eh bien, le prince idéal réunit toutes les qualités que lui récuse Machiavel. Alors, ce prince doit mener une politique fondée sur la franchise, il doit s'interdire la conquête, il doit respecter les traités, et ainsi de suite. Alors évidemment, lorsqu'on prend l'action qui sera menée peu de temps après par Frédéric II, on est dans un autre monde.
Il est très marqué par la morale.
Oui, il est marqué par la morale, c'est exact. Et peut-être d'ailleurs souffrira-t-il d'avoir à agir comme il agira, ce n'est pas impossible. Il croit peut-être d'ailleurs au moment où il écrit qu'il est possible de concilier le monde de Marc Aurèle, souvent on l'a appelé Marc Aurèle et Voltaire qui en remettait des couches, si je peux employer cette expression un peu familière, l'a appelé Marc Aurèle et bien d'autres noms ont été utilisés, ça va de soi. Mais enfin, Marc Aurèle est revenu souvent. Alors, il a peut-être cru qu'il était possible de concilier l'esprit de Marc Aurèle et les devoirs de César. Ce n'est peut-être pas si simple.
Peut-on parler de fait d'une duplicité ?
Au moment où il écrit, je ne pense pas. Mais il va se révéler très vite, oui, que duplicité il y a.
Alors Marc Aurèle est un philosophe.
Oui.
Nous verrons ce roi philosophe, Jean-Paul Bled, après une seconde pause. À tout de suite.
Découvrez les lettres que Marcel Proust, préparant ses romans, écrivait à Émile Malle de l'Académie française et de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Ces missives laissent penser que Proust s'est inspiré de la connaissance d'Émile Malle sur les édifices religieux et l'histoire de l'art, en particulier pour rédiger du côté de chez Swann. Ces lettres confirment l'extrême minutie de Proust jusqu'au moindre détail.
Un jour dans l'histoire reçoit Jean-Paul Bled, professeur à la Sorbonne et auteur aux éditions Fayard d'une biographie consacrée à Frédéric le Grand. Alors nous avons évoqué les rapports entre le père et le fils, nous avons évoqué le penseur politique, évoquons si vous le voulez bien Jean-Paul Bled, le roi philosophe. Nous avons montré son attachement à Voltaire, Frédéric lit, Frédéric écrit beaucoup tout au long de sa vie, même quand il est au pouvoir, Frédéric se pose beaucoup de questions. Ce qu'il porte naturellement vers la philosophie. Quelle est son approche de la philosophie en général ?
Il est marqué effectivement par les Lumières. Il demande à la philosophie, je dirais, des règles de vie plutôt. Pour ce qui concerne la métaphysique, il arrive très vite à la conclusion que ceci, les vérités dernières, si l'on peut dire, sont hors de portée de l'homme. Et au fond, il se révèle assez vite un sceptique. Sur ce point, d'ailleurs, on peut se poser la question, est-il un véritable fils des philosophes ou un fils des Lumières? Parce que à partir du moment où on développe un scepticisme, et je le répète, il va y arriver assez vite et revenir régulièrement sur ce thème, d'une certaine manière, cela récuse des progrès. Autre idée, force des Lumières.
Il n'y a donc pas en fait d'idéalisme chez lui révolutionnaire?
Cela, je ne crois pas. Je ne crois pas. C'est certainement pas un des philosophes qui ont, quelque sorte, préparé la révolution ou les révolutions. D'ailleurs, soyons bien nets à ce sujet, il fait la différence parmi les philosophes, si je peux dire, entre, pour simplifier, la première et la seconde génération. Avec Voltaire, on l'a dit, le rapport peut être tumultueux. Mais il y a une sorte d'accord de plein pied. Il sait très bien que Voltaire, pas un révolutionnaire, qu'il n'a pas l'idée de bouleverser l'ordre social. Il veut des réformes, bien sûr, notamment pour tout ce qui concerne la liberté individuelle, la censure, la suppression de la censure, la suppression de la torture, toutes ces choses. Et tout domaine d'ailleurs où Frédéric entreprend des réformes, mais Voltaire n'a pas du tout l'ambition de révolutionner le système social. Or, lorsque Rousseau apparaît, par exemple, ou Diderot, eh bien, Frédéric est beaucoup plus méfiant, et même assez hostile. D'ailleurs, Diderot n'aime pas Frédéric. Donc, il fait un partage. Alors maintenant, on peut ajouter que il est certainement détaché de la foi religieuse. Il est protestant, bien sûr. Et lorsqu'il le faut, il s'affirme protestant. Mais lorsqu'il le fait, c'est par rapport à des objectifs politiques, n'est-ce pas? Mais pour ce qui le concerne, lui, je pense qu'il est déiste, comme Voltaire, grand architecte, grand horloger, si vous voulez. Mais alors, à côté de cela, il est tolérant. Il est très tolérant. Et on le voit, par exemple, dans l'attitude qu'il a à l'égard des catholiques.
Notamment des jésuites.
Tout à fait. Alors, à titre personnel, il a le plus profond mépris pour le catholicisme. Ça, c'est une chose claire. Mais c'est à titre personnel. Il fait bien la distinction entre l'individu Frédéric et le roi de Prusse. Bon, et le roi de Prusse, d'abord, il a des sujets catholiques. Il en avait déjà avant de monter sur le trône, enfin quand il monte sur le trône, et avant l'opération sur la Silésie. Mais il en a, à ce moment-là, beaucoup plus, parce que en annexant la Silésie, eh bien, il annexe une province dont la majorité de la population est catholique. Alors, il va pratiquer la tolérance. Et c'est tellement vrai qu'il fait construire à Berlin, sa capitale, une cathédrale catholique, à l'intention de ses sujets catholiques, notamment silésiens, lorsqu'ils viennent à Berlin. Et on pourrait faire d'ailleurs un certain rapprochement avec une grande figure qui viendra plus tard, mais pas beaucoup plus tard, qui sera Bonaparte, Napoléon. Parce que il dit, si j'avais des sujets mahométans, n'est-ce pas, c'est le terme qu'on emploie à l'époque, je ferais construire des mosquées à Berlin. Et Bonaparte dira la même chose.
Alors, il refuse le dogme, en tous les cas la tradition, oui. La métaphysique. Vous l'avez présenté comme un sceptique, à la Voltaire, au fond. Il y a une notion que vous développez énormément dans votre livre, c'est cette notion de hasard. Je me permets de citer les paroles de Frédéric lui-même. « En ce monde maudit, il n'est que des hasards. Malgré tous les calculs qui règlent sa conduite, l'orgueilleuse raison se trouve enfin réduite à confesser ici que l'homme, en tout borné, suit le torrent du sort où il est entraîné. » Il n'y a pas une forme de fatalisme chez lui?
Oui, d'une certaine manière. Et donc, ça nous renvoie à ce que l'on disait tout à l'heure à propos de ce procès qui est instruit d'idées de progrès, n'est-ce pas? En même temps, il y a tout de même un correctif. Face au hasard, il n'empêche que l'homme doit accomplir son devoir. Et l'homme, en l'occurrence, c'est lui. Enfin, c'est tous les hommes, mais celui dont nous parlons, c'est Frédéric, qui est le roi, qui est le monarque, et sa vie n'a de sens que par rapport à ce devoir. Ce devoir vis-à-vis de l'État, puisqu'il se définit comme le premier serviteur de l'État. C'est-à-dire qu'on est effectivement, on est passé dans un autre type de monarchie. C'est plus la monarchie de droit divin. Ça n'en reste pas moins une monarchie absolue. Parce que là, on peut ajouter que par rapport à la France absolutiste, XIV, Louis XV, eh bien, il va encore plus loin, n'est-ce pas ? En France, c'est le roi en son conseil. Il a des ministres qui sont de vrais ministres, qui ont une influence réelle, même si, sans doute, à l'arrivée, le roi tranche. Mais enfin, il bénéficie de conseils qui peuvent, précisément, orienter son choix.
Chez Frédéric, rien de tout cela.
Rien de tout cela. Le ministre est un exécutant. On lui transmet la documentation dont il a besoin, qu'il réclame. Les rapports avec les ministres, les entretiens par correspondance, par lettre. Il les voit une fois par an. C'est évidemment bien peu. Et le reste du temps, ce sont des lettres qui vont de Berlin ou de Potsdam à Sanssouci ou au château de Potsdam. Et donc, il ne les voit qu'une fois par an. Et à la lumière des informations que ces ministres lui donnent, il décide, et au ministre ensuite, d'exécuter. Donc nous sommes, si je peux dire, à la pointe ultime de l'absolutisme.
Je reviens sur la notion de raison et sur la philosophie. Vous décrivez tous ces écrits historiques, parce que Frédéric se penche sur l'histoire et écrit sur l'histoire. Et en fait, il est très empirique. Il met en avant, vous dites, le jeu des effets et des causes.
Oui, exactement. Là aussi, c'est évidemment, c'est une histoire qui est très loin de l'histoire providentielle. On est très loin de Bossuet, si vous voulez. C'est aussi, d'ailleurs, on peut faire un rapprochement avec Voltaire. Lui aussi a été historien, bien sûr, le siècle de Louis XIV et bien d'autres. L'histoire de Charles XII, autre personnage d'ailleurs qui a fasciné Frédéric II. Eh bien, là aussi, il y a une rencontre entre Voltaire et Frédéric. Peut-être d'ailleurs, Frédéric a-t-il en partie emprunté cette vision de l'histoire, ou cette clé d'interprétation de l'histoire.
Est-ce qu'il donne un sens à l'histoire ?
Non, pas vraiment. On ne peut pas dire, me semble-t-il, que sa vision soit soutenue par un sens de l'histoire, au sens que l'on trouvera au XIXe siècle, ou précédemment avec l'histoire providentielle. C'est un mémorialiste de ses actions, d'ailleurs. Pas seulement, puisqu'il a écrit aussi, c'est sa première œuvre, avant de s'intéresser à sa propre vie et à ses entreprises politiques et militaires, il a écrit une histoire de la maison de Brandebourg. Mais sans qu'on puisse dire pour autant qu'il y a une philosophie de l'histoire. Ça, je ne pense pas qu'on puisse aller jusque-là.
C'est en cela aussi qu'il diffère des philosophes du XVIIIe siècle.
Oui, certainement. Certainement.
Alors, quelle est la valeur de ces écrits historiques ? Vous le montrez très autocritique.
Oui, ça lui arrive, bien sûr. Ça lui arrive. Alors, il ne dit pas tout. Enfin, je dirais que même aujourd'hui, lorsque X, Y, Z écrit ses mémoires, dit-il tout ou dit-elle tout ? Donc, c'est pas à cette aune qu'il faut le mesurer. Mais c'est vrai que en de nombreuses occasions, il va faire son autocritique, en particulier sur le plan militaire, n'est-ce pas ? Alors, je disais, il y a des choses qu'il cache ou qu'il ne dit pas. Par exemple, la première bataille qu'il a livrée n'a pas été très glorieuse. Elle a été gagnée, mais en fait, elle n'a pas été gagnée par lui. Et elle était tellement peu glorieuse que, avant la fin de la bataille, à un moment où on la croit perdue,
il part en retraite.
Le maréchal von Schwerin lui dit « Écoutez, sire, partez, il faut vous sauver, sauver votre vie, etc. » Bon, il s'en va, et on va le retrouver le lendemain dans un moulin. Et en fait, la bataille a été gagnée entre-temps. Bon. Et ça, dans ses mémoires, il n'en dit pas un mot. Bon, voilà, une zone d'ombre. Mais à côté de cela, il y a des moments militaires où il a commandé et où il fait son autocritique, il estime qu'il a commis des erreurs, et il le traite d'une manière assez froide, je dirais. Et là non plus, c'est pas si fréquent.
Je rappelle à nos auditeurs qu'ils sont sur Canal Academy et que je reçois Jean-Paul Bled, professeur à la Sorbonne et auteur d'une biographie consacrée au personnage, au grand personnage, Frédéric II de Prusse. Nous nous retrouvons dans un instant. À tout de suite.
La prison est-elle le bon endroit pour 25% de détenus qui présentent de graves troubles psychiatriques? Faut-il développer le nombre de places en prison ou celles en psychiatrie? Canal Académie vous propose un échange autour de cette question qui fait débat sur la récidive des anciens prisonniers, sur les prisons engorgées et sur les hôpitaux trop peu équipés. Mise au point sur la santé mentale des prisonniers, une émission éclairage en compagnie de Marc Chantilini et Jean-Pierre Ollier, à écouter dès maintenant sur Canal Académie.
Nous reprenons le cours de notre émission. Je reçois Jean-Paul Bled, auteur d'une biographie consacrée à Frédéric Legrand. Alors, nous venons d'évoquer cette fameuse bataille qui sonne le début de la conquête de Silésie. On est frappé, Jean-Paul Bled, par la rapidité de l'action de Frédéric. Il arrive au pouvoir le 31 mai, 6 mois et demi après, quasiment jour pour jour, il met la main sur la Silésie. On a envie de dire, si vous me permettez cette expression, c'est énorme.
Oui, c'est énorme. Alors c'est vrai qu'il dispose de l'atout de cette armée qu'a préparé son père, c'est une évidence. Mais ça ne suffit pas à tout expliquer. Tout à l'heure, je faisais un certain rapprochement avec une grande figure à venir, Bonaparte. Eh bien, il y a des points qui les rapprochent, n'est-ce pas? Précisément cette rapidité qui frappe l'ennemi, l'effet de surprise, bien sûr, et donc qui déroute l'ennemi. Alors, cette affaire de Silésie, elle est essentielle. Il la conquiert rapidement, il va la défendre. Ça sera première série de guerre dans le cadre de la succession d'Autriche. Et au terme de ces guerres, Frédéric conserve la Silésie. Mais l'affaire n'est pas définitivement jouée. Il le sait très bien. Marie-Thérèse a dû consentir, mais au fond d'elle-même, elle ne s'accommode pas de cette perte. Donc, elle se prépare à relancer le conflit pour recouvrer la Silésie. Et nous trouvons là le fil directeur de son action. Alors, il veut à tout prix se prémunir d'une attaque. Et précédemment, il y avait une alliance entre Londres et Vienne. Et il va s'allier avec Londres. C'est le traité de Westminster de janvier 1756. Seulement, le problème, c'est qu'il est toujours l'allié de la France. Et comment peut-on être à la fois l'allié de l'Angleterre et l'allié de la France à ce moment-là, évidemment? C'est très difficile, pour ne pas dire impossible. Jusqu'à ce moment-là, du côté français, on penchait vers une reconduction de l'alliance avec Berlin. On avait commencé des discussions avec Vienne. Il y avait des approches, puisque Vienne avait fait le choix d'essayer de convaincre Versailles de changer de camp, et donc d'arriver à cette fameuse alliance franco-autrichienne. On hésitait à Versailles, mais une fois que on découvre cette alliance anglo-prussienne, là on n'hésite plus, et donc va être signé le premier traité de Versailles entre la France et les États de la Maison d'Autriche, et du même coup, c'est le renversement des alliances, d'où va découler la guerre de 7 ans.
C'est véritablement un bouleversement des relations internationales, puisque la politique traditionnelle de la France depuis Richelieu, c'est de lutter contre la Maison d'Autriche.
Oui, et même avant d'ailleurs, n'est-ce pas? C'est une tradition donc bien enracinée maintenant.
Et Charles Quint, François Ier.
Et d'ailleurs, c'est tellement vrai, et là c'est une erreur d'appréciation de Frédéric, qu'il a pensé pouvoir conclure cette alliance avec l'Angleterre parce qu'il considérait que jamais, la France ne s'allierait avec l'Autriche.
Vous dites, oui, Frédéric a sous-estimé les forces qui agissaient.
Oui. Là, il y a une erreur d'appréciation de sa part. Cet homme est un grand homme, mais comme tout grand homme, il peut commettre des erreurs. Et là, il a commis une erreur indiscutable.
Alors, je renvoie naturellement nos auditeurs à votre livre pour découvrir toute la partie chronologique, tous ces bouleversements des relations internationales. Je les renvoie également sur toute la politique intérieure, puisqu'il a une politique intérieure très importante. Nous avons évoqué tout à l'heure ces liens avec les catholiques, mais la politique intérieure ne se réduit pas à cela, bien évidemment. Il y a bien d'autres choses. Vous terminez, Jean-Paul Bled, votre livre par un chapitre très important, en tous les cas que je juge très important. Ce sont ce que vous appelez les métamorphoses de Frédéric II, à savoir en fait l'histoire de la représentation de Frédéric II après, par la postérité. Et vous vous attachez à plusieurs événements, notamment 1806, 1870 et 1933. Alors, quelle est justement ces images en 1806, par exemple, et après, de Frédéric II?
Alors, 1806 pose une question, puisque 1806 est l'effondrement de la Prusse, n'est-ce pas, sous les coups de boutoir de la France, qui est là, à Warstedt. Cette Prusse qui s'effondre, n'est-ce pas la Prusse de Frédéric? Et donc, n'est-il pas en partie responsable de cet effondrement? Bon, là, je ne répondrai pas à la question, mais certains l'ont posée, ont commencé à la poser à ce moment-là. Donc, cette date est une étape, en quelque sorte, dans la lecture, la relecture de Frédéric. Peut-être plus importantes sont les dates suivantes, parce que là, on entre dans un autre registre, qui est celui de la récupération, et peut-être de la manipulation, phénomène classique en histoire. Dans la mesure où l'on fait de Frédéric II le père de l'unité allemande, le précurseur, disons, le père, c'est Bismarck, bien sûr, mais le précurseur. Moi, personnellement, je réponds à cette question. Il a même sûrement semé les graines. Mais ce qui me paraît plus important, c'est de savoir si cela figurait dans ses objectifs à lui.
D'après ce que vous nous disiez tout à l'heure, à savoir que c'était un défenseur plutôt de l'ordre des Westphalie contre l'Empire austro-hongrois, ce serait non.
Voilà. Mmh. De ce point de vue-là, ma réponse est tout à fait non. Et puis, autre point essentiel qui permet aussi de répondre aux questions suivantes, Frédéric n'est pas un nationaliste allemand. Et il n'est même pas un avant-goût de nationaliste allemand. On a évoqué tout à l'heure, au début, ses liens avec la France, avec la culture française. Cet homme qui serait précurseur du nationalisme allemand n'écrit qu'en français. À différence, par exemple, pour lui, la patrie, c'est la Prusse, c'est pas l'Allemagne. Lorsqu'il emploie le mot patrie, d'abord il l'emploie en français, il l'emploie pas en allemand. Pour Marie-Thérèse, lorsqu'elle emploie le mot patrie, c'est le Saint-Empire. Et donc là, nous avons une différence. Elle se sent certainement beaucoup plus allemande que lui. Elle se sent très autrichienne, évidemment. Elle se sent autrichienne avant d'être allemande. Mais elle se sent aussi allemande. Lui, pas. Lui, il est prussien. Il travaille à la grandeur de la Prusse. Il est un patriote prussien. Oui. Le reste, non. Hein? Donc, ça, c'est une reconstruction de l'histoire. Et évidemment, qui va trouver son apogée
avec Hitler.
Avec Hitler. Et alors, il y a cette fameuse scène que j'évoque, qui est très, très illustre. C'est cette fameuse journée de Potsdam du 21 mars 1933. Donc, on est au tout début, n'est-ce pas, de l'Allemagne nationale-socialiste. Hindenburg, le vieux maréchal, est toujours là. Et les deux hommes, Hindenburg et Hitler, vont descendre, se recueillir dans la crypte de l'église à garnison pour se recueillir devant la tombe de Frédéric. Et il y a toute une série de timbres à la gloire de Frédéric. Il y a des cartes postales où l'on voit les trois personnages, Frédéric, Bismarck, Hitler. Et d'autre part, Frédéric va être magnifié par toute une série de films sous le Troisième Reich. Il avait déjà été magnifié à l'époque de Weimar, mais ça continue. D'ailleurs, c'est le même acteur qui joue toujours le rôle. Et il a été grimé de telle façon qu'on pourrait croire avoir Frédéric devant soi. Le vieux Frédéric. Hein,
Le vieux Fritz.
Le vieux Fritz, voilà. Donc, une récupération, mais je donnerai un dernier exemple pour montrer combien tout cela est du domaine de la manipulation. À un certain moment, il a dit, parlant de la Silésie d'un côté, donc la Prusse, et de l'autre la France, l'Alsace et la Lorraine. Il expliquait, c'est à l'époque où les deux pays étaient alliés bien sûr, lorsque l'une est attaquée, l'autre doit venir à son secours. Peut-on imaginer un nationaliste allemand tenir un tel propos?
Mais écoutez, Jean-Paul Bled, c'est sur ces mots de sagesse que nous allons nous quitter. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes l'auteur du livre Frédéric le Grand, paru aux éditions Fayard. Je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Et je donne rendez-vous à nos auditeurs la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Un jour dans l'histoire. Merci et à bientôt.